Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe 1 soir,
19h-20h, Thomas Chenel.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tranche d'information avec à la une du journal. 5 ans après l'incendie, les travaux de Notre-Dame de Paris entrent dans une phase décisive. Dernière ligne droite pour ouvrir la cathédrale le 8 décembre, journée spéciale sur Europe 1. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura-t-elle lieu sur la Seine? Il y a un plan B, même un plan C, annonce pour la première fois Emmanuel Macron au Trocadéro, voire au Stade de France en cas de menace terroriste. La France qui fera tout pour éviter l'embrasement, les appels à la retenue se multiplient. Après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël, Emmanuel Macron précise le rôle de Paris dans l'interception des missiles iraniens. On y reviendra après le journal. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Voici le programme. Merci de passer 7 heures avec nous. 19h01, la tendance météo, Marlène Duré.
Bonsoir Thomas. En avril, bonsoir. Ne te découvre pas d'un fil. Comme prévu, la fraîcheur a fait son retour et les températures auront encore tendance à baisser. Demain, côté ciel, des averses, du vent, un ciel changeant. Évidemment, on fait le point en fin de journal.
Europe 1.
C'est une course contre la montre qui est lancée sur le chantier de Notre-Dame de Paris pour rouvrir la cathédrale le 8 décembre prochain. Le délai sera tenu, promettons, sur le chantier, ce 15 avril 2019. Beaucoup encore se souviennent de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Les riverains sont encore émus au micro européen de Camille Moreau.
J'étais à Londres et c'était assez impressionnant parce que c'était la une de tout. Des pages et des pages de photos qui faisaient un peu froid au dos parce que c'était Notre-Dame qui partait en fumée.
Vous avez presque les larmes aux yeux en me disant.
Mais oui, parce que c'est vraiment un événement émouvant, poignant. Ça m'a pris, ça m'a vraiment beaucoup ému.
Il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait, pourtant il y avait beaucoup de monde. Normalement ça fait un peu de bruit quand il y a autant de gens qui sont rassemblés, mais là c'était très calme.
Je me suis inquiété pour le trésor de Notre-Dame qui est juste à côté, je crois qu'il y avait la couronne du Christ, la chemise de Saint-Louis, il y avait plein de reliques d'une valeur inestimable qui auraient pu brûler avec, et étant parisien, je l'ai un peu dans mon cœur, hein, d'autant plus que j'étais enfant de cœur dans cette cathédrale il y a 50 ans.
Quand j'ai su que Notre-Dame était restée debout, j'étais très heureuse. Merci aux pompiers qui ont fait ça, parce qu'ils ont risqué leur peau pour ça. Moi, je suis bluffée par eux.
Il y a 5 ans, les flammes ont ravagé la toiture, désormais ôtée de son échafaudage. Le brasier avait noirci les pierres, que l'on revoit petit à petit nettoyées, retrouver leur blondeur. Antoine Bienveau, vous avez pu visiter le chantier pour Europe 1. Cette visite commence sur le toit de la cathédrale.
Oui, et pour accéder à l'échafaudage à 40 mètres du sol, on emprunte un ascenseur qui nous dépose au pied de la nouvelle flèche de Notre-Dame. C'est ici que travaillent les couvreurs qui recouvrent la charpente avec des tables de plomb. Depuis janvier, Quentin Attias et ses équipes posent chaque jour une dizaine de plaques sur la structure.
On les fait descendre tout le long du toit avec un système de treuil, un peu comme un skateboard qui descend sur le toit, qui porte la table de plomb et nous on va la poser directement. Ça nous permet de manipuler le plomb parce que les tables elles font quand même 52 kilos.
La restauration se poursuit donc sur le toit de Notre-Dame, mais la majorité des compagnons œuvrent cependant au sol à l'intérieur de la cathédrale. Nathalie Pruat, par exemple, est restauratrice de sculptures. Au milieu des scies et des marteaux, elle restaure les joyaux de Notre-Dame, dont récemment le célèbre vœu de Louis XIII. Mais attention, avant de définitivement remettre en cire les sculptures, il faut suivre un protocole bien précis.
Une fois le nettoyage terminé, des tests de lingettes sont effectués afin de savoir si le taux de plomb est acceptable ou pas. Là, je suis en attente pour Monseigneur de Kellen. Donc j'attends les résultats pour le mettre en cire, pour qu'on puisse réouvrir au public en pleine sécurité.
Après le travail des compagnons, l'intérieur de Notre-Dame apparaît désormais beaucoup plus lumineux qu'avant l'incendie, grâce à la restauration parfaite des vitraux et des pierres plus blondes et lumineuses que jamais.
19h04 sur Europe 1, c'est la première fois qu'un scénario alternatif d'urgence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est aussi précisément évoqué. À presque 100 jours du lancement des JO, Emmanuel Macron a visité le chantier du Grand Palais sous la nef, là où se dérouleront les épreuves d'escrime et de taekwondo, pour marteler que tout sera prêt. Mais pour la première fois, le chef de l'État lève le tabou. En cas de menace terroriste, 2 solutions de repli se dessinent. La cérémonie pourrait être rapatriée au Stade de France, Alexis de la Fléchère. Oui, c'est ce qui se fait classiquement, a dit le chef de l'État. Mais si cette hypothèse venait à se confirmer, le Stade de France ne serait alors utilisé que pour la cérémonie protocolaire et non plus artistique. Ça veut dire que l'enceinte sportive accueillerait en fait uniquement la déclaration d'ouverture des Jeux faite par le président de la République et le serment olympique prêté par les deux athlètes. Pas de spectacle donc, ni de show au menu. Pas d'intérêt a priori donc d'accueillir dans ces conditions du public. Le plan B, lui, a été annoncé autour du Trocadéro, un schéma dans lequel on conserverait quand même une partie de la cérémonie sur la scène, mais de façon réduite. Des annonces qui interviennent en tout cas dans un contexte très tendu. La DGSI, Europe 1 vous le révélait au début du mois, avait préconisé au ministre de l'Intérieur de prévoir très sérieusement des alternatives au plan initial.
Et pour marquer le coup à 100 jours des JO, 250 000 nouveaux billets seront mis en vente mercredi sur l'ensemble des sports au programme, annonce le comité d'organisation des JO. Y a-t-il dissension sur la forme de la riposte d'Israël contre Téhéran ? Le cabinet de guerre israélien se réunit sans résultat pour le moment annoncé. Benjamin Netanyahou est tiraillé entre saisir l'occasion pour frapper durement l'Iran ou agir avec prudence pour ne pas rompre avec ses alliés hostiles à une escalade. On retrouve sur place notre envoyé spécial à Tel Aviv, Wilfried De Villers. Wilfried, dans quel état d'esprit se trouvent ce soir les habitants que vous avez rencontrés ?
Eh bien, Thomas, vous parliez de dissension à l'instant. La société israélienne est-elle aussi divisée sur cette question d'une éventuelle riposte après l'attaque iranienne ? Ici à Tel Aviv, certains comme Sarah estiment qu'il faut répondre sans attendre.
On ne peut pas faire preuve de faiblesse de ces pays-là qui veulent notre mort, en fait. Donc on est obligé, effectivement, d'avoir des réponses, j'entends bien, militaires et appropriées. On est bien obligé de répliquer parce qu'on veut la paix, mais ils ne veulent pas la paix. On fait quoi ?
Que temporiser puisse être interprété comme une forme de faiblesse de la part de l'État hébreu, c'est ce que vient de nous dire Sarah et c'est aussi ce que craint Olivier qui est également en faveur d'une contre-attaque.
Sur le plan tactique, il faudra de toute façon répondre pour essayer d'éliminer ce que globalement je considère comme une menace contre notre civilisation.
Voilà, mais d'autres personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui estiment que cette éventuelle riposte ne ferait qu'embraser une situation déjà explosive dans la région. Une jeune femme avec qui je m'entretenais, il y a quelques minutes m'a aussi confié que la vraie menace se situe pour elle toujours à Gaza et qu'il ne faut pas perdre de vue ce que de nombreux Israéliens considèrent comme une priorité, la libération des otages toujours retenus par le Hamas.
Merci Wilfried De Villers, envoyé spécial à Tel Aviv pour Europe 1. 48 heures après l'attaque contre Israël, la France se tient aux côtés d'Israël, a rappelé Emmanuel Macron ce matin. Mais c'est sur demande jordanienne que l'armée française a intercepté des missiles iraniens. Dans un instant, une attaque contre l'Amérique, une persécution sans précédent orchestrée par Joe Biden. Les déclarations tonitruantes de Donald Trump à l'ouverture de son procès à New York. A tout de suite.
Europe 1 soir.
Europe 1 soir.
19h-20h.
Thomas Schnell.
19h09 sur Europe 1, c'est l'image historique, elle nous vient des États-Unis. Donald Trump devant un tribunal pénal de New York. Une première pour un ancien président accusé notamment d'avoir détourné l'argent pour acheter le silence de l'actrice X Stormy Daniels lors de sa première campagne. C'était Donald Trump à l'offensive qui s'est présenté à la barre.
C'est une affaire qui n'aurait jamais dû être intentée. C'est une attaque contre l'Amérique, c'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays et c'est un pays qui échoue.
On retrouve sur place notre correspondante Europe 1, Anne Toulouse. Comment s'est déroulé le reste de l'audience ?
Pendant que Donald Trump entrait par la grande porte, on a conduit la première fournée de jurés, une centaine de personnes, dans la salle d'audience où l'ex-président est assis à la table de la défense, une place dont il a maintenant l'habitude. Il n'y a pas de caméra dans la salle, mais des photos qui montrent un Donald Trump imperturbable. Les jurés défilent entre lui et le juge pour répondre à 42 questions qui visent à définir leur personnalité et leur aptitude à être impartiaux. On peut imaginer que leurs réponses dépendent de leur volonté ou de leur crainte de participer à un procès à sensation. Dans le droit pénal, le verdict doit être prononcé à l'unanimité. Il suffit d'une voix dissidente pour que la procédure s'effondre. Les deux parties vont donc les passer au peigne fin. Et dans la mesure où il y a 500 candidats potentiels pour un jury de 18 personnes, cette phase du procès risque de s'étirer sur une semaine, voire deux.
Anne Toulouse, notre correspondante aux États-Unis pour Europe 1. C'est demain que doit se dérouler la réunion entre les actionnaires de Stellantis, le constructeur automobile, réunion de PSA Fiat Chrysler. Et le salaire du patron Carlos Tavares sera soumis à un vote non contraignant. En visite d'une usine de moteurs électriques à Trémery, près de Metz, il s'est défendu d'un salaire qu'on annonce dépasser les 36 millions d'euros.
C'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. C'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répondez. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Voilà ma réponse.
Carlos Tavares, patron de Stellantis, au micro européen d'Aurélien Fleureau. Ils n'ont pas joué ce week-end pour se préparer au match retour. Demain, deuxième manche du quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG contre Barcelone. Les Parisiens battus 3-2 lors du match aller sont attendus à Montjuïc pour tenter de renverser la situation, Cyril de la Morinerie.
Oui, et il y a une statistique qui n'est pas très rassurante pour le Paris Saint-Germain. Aucune équipe française ne s'est qualifiée après avoir perdu bien le match aller à domicile. Donc, aucune équipe française ne s'est qualifiée pour le tour suivant de la Ligue des Champions après avoir perdu le match aller à domicile. Et pour déjouer bien les pronostics, le Paris Saint-Germain devra faire beaucoup mieux que la semaine dernière. Mais le défenseur parisien Achraf Hakimi, de retour de suspension après avoir manqué le match aller, a affiché son optimisme cet après-midi en conférence de presse.
On vient avec beaucoup d'envie de changer les choses qui s'est passé à le match d'aller. On voulait venir là gagner et on ramène la victoire à Paris.
Paris a beaucoup de ressources pour renverser la situation. L'ancien Barcelonais Ousmane Dembélé, buteur à l'aller, il est en forme. Kylian Mbappé va finir par se réveiller. Paris n'a qu'un but de retard à combler. Eh bien, c'est pourquoi le consultant d'Europe 1, Alain Giresse, y croit.
C'est pas impossible. Barcelone va avoir le ballon, ça c'est pas grave. Et après qu'on puisse justement profiter des récupérations pour leur faire mal avec la vitesse des attaquants.
Et 1500 fans parisiens doivent partir ce soir du Parc des Princes direction Barcelone. Ils vont voyager toute la nuit pour être fin prêts demain soir pour soutenir leur équipe.
Demain soir donc à Barcelone, notre équipe française qui est en Europe, c'est l'OM qui fera son match retour face au Benfica Lisbonne. Ça ce sera jeudi. À 21h, en parlant de Marseillais, il y en a un qui tourne en boucle dans les playlists des jeunes et des moins jeunes. Après 30 albums, 10 ans de carrière et 3 lettres gravées à jamais dans l'histoire du rap marseillais, Jul annonce 2 dates de concert l'an prochain dans les 2 plus grandes arènes du pays. Le Stade de France aux 80 000 places, ce sera le 26 avril 2025. Puis le Vélodrome à Marseille et c'est près de 60 000 places le 24 mai. L'hystérie des fans est totale sur les réseaux. Le chanteur de 34 ans devient le 4e rappeur francophone de l'histoire à se produire au Stade de France. Ouverture de la billetterie après-demain, mercredi 17 avril à partir de midi. Vous êtes sur Europe 1, il est 19h14. L'heure comme tous les jours de faire le point sur les marchés avec Claire Lemaître de boursier.com. Claire, le CAC commence sa semaine en légère hausse.
Oui, le CAC qui a gardé son calme après l'attaque de l'Iran contre Israël. Il gagnait même plus de 1% en début d'après-midi, mais ce soir c'est finalement un gain plus modeste, plus 0,4%. 8045 points, du vert pour le luxe. Hermès gagne 1,4%, plus 1,7% pour LVMH qui dévoilera demain son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Les tensions géopolitiques ont aussi fait monter le secteur de la défense. Dassault Aviation gagne 1,5%, plus 1% pour Safran. Et puis ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Plus 0,4 pour Francfort, mais moins 0,4 pour Londres. À Paris, plus 0,4% pour le CAC 40. On est à 8045 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. On vous retrouve demain pour l'heure. C'est l'heure de jeter un œil sur la météo. Marlène Duré, les pluies arrivés aujourd'hui vont continuer de traverser le pays.
Et oui, c'est notre perturbation qui a arrosé une petite moitié nord et qui va effectivement progresser vers le sud en cours de nuit pour s'étendre demain matin des Pyrénées au Jura et aux Alpes du Nord en passant par le Midi Toulousain, le sud de l'Auvergne et la région lyonnaise. À son passage, notez du vent, de la fraîcheur. Elle va se déliter en cours d'après-midi, ce qui permettra d'ailleurs à quelques éclaircies de percer, sauf sur le piémont pyrénéen. Et puis partout ailleurs, c'est plutôt une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, voire de gibles giboulées dans le nord-est, averses de moins en moins nombreuses quand même à mesure que l'on ira vers la Bretagne, le Poitou-Charentes, à l'ouest du Massif central. Et puis va neiger, et oui, va neiger, à des hauteurs comprises entre 900 et 1100 mètres, des Vosges aux Alpes du Nord, ainsi que sur le Massif central, et puis à partir de 1600 mètres, donc un petit peu plus haut côté Pyrénées.
À l'inverse, autour de la Méditerranée, on va passer la journée sous de belles éclaircies.
Oui, c'est vrai que des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'aux régions provençales et à la Corse, le temps sera plus sec, plus ensoleillé, mais avec beaucoup de vent hein, quand même. Hein. Pas moins de 80-90 km à l'heure dans le domaine de la Tramontane et du Mistral. Et puis encore, ça peut même souffler jusqu'à 120 km à l'heure.
Et on perdra encore quelques degrés demain.
Et oui, le matin comme l'après-midi. Alors le matin, on est sur du 4 à 9 degrés sur les deux tiers nord du territoire. Entre 8 et 12 en allant vers le sud et même un peu plus près de la Méditerranée, hein, jusqu'à 15. Et puis les maximales ne dépasseront pas les 11 à 16 degrés dans la plupart des régions. Comptez toujours un petit peu plus sur le pourtour méditerranéen avec 18 à 22 jusqu'à 23 dans le nord de la Corse. Et je regardais là pour le reste de la semaine, Thomas, il n'y aura pas vraiment de grandes variations cette semaine. Ça va rester frais.
On a bien fait de ne pas s'habituer aux températures chaudes de ce week-end.
On a gardé le mythe. Enfin, moi, j'ai ressorti le manteau, personnellement.
Merci, Marlène Duré. Dans un instant, sur Europe 1, le jour où la France a vu Notre-Dame de Paris se transformer en torchère. 5 ans après l'incendie, journée spéciale sur Europe 1, le chantier entre dans sa dernière ligne droite. On en parle ensemble avec le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, Didier Rickner. Il est avec nous en direct juste après ça.
Europe 1 soir.